Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartré. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, le séminaire. Livre 14. La logique du fantasme rassemble le séminaire tenu par Jacques Lacan en 1966-1967. Dans une édition établie par Jacques Alain Miller et publiée dans le cadre du champ freudien. Ce volume appartient au genre du séminaire théorique de psychanalyse, avec une forte dimension philosophique, logique et clinique. Son objet central est le fantasme. Non comme simple image privée ou scénario imaginaire, mais comme structure qui organise la position du sujet face au désir, au corps, au langage et au réel. Lacan immobilise des références inhabituelles pour la psychanalyse, dont le groupe de Klein, le cogito cartésien, le nombre d'or et une réflexion sur Marx, afin de formaliser des problèmes cliniques. Le livre vise moins une exposition pédagogique linéaire que la construction progressive de points de repère pour penser la cure, la jouissance et la fin possible de l'analyse. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le fantasme comme axiome structurant du sujet, le volume place le fantasme au centre de la réflexion, mais de façon indirecte. Lacan ne propose pas un chapitre didactique qui définirait une fois pour toute la logique du fantasme. Le terme revient plutôt comme un fil directeur qui permet de relier plusieurs questions le désir du sujet, la relation au grand autre. La fonction d'objet petit a est la manière dont la réalité psychique se trouve cadrée. Cette méthode correspond au statut même up du fantasme dans la clinique lacanienne, il ne se présente pas seulement comme contenu représentable, mais comme règle de lecture de la position subjective. Le fantasme agit comme un axiome, soit une formule de base qui organise les choix, les impasses et les réticences du sujet sans être toujours formulée consciemment. Cette approche déplace la psychanalyse vers une logique de la structure plutôt que vers une psychologie des images. Le lecteur comprend ainsi que le fantasme ne sert pas seulement à masquer la réalité, il donne une consistance à ce que le sujet peut supporter du désir, du manque et du réel. Deuxièmement, le groupe de Klein et le cogito transformés en outils analytiques. Une des singularités du séminaire réside dans le recours à des formalismes logiques et mathématiques. Lacan croise notamment le groupe de Klein avec une relecture du cogito cartésien. Au lieu de conserver la certitude classique fondée sur la pensée, il introduit une alternative entre être et penser qui met en crise le sujet maître de soi. Cette opération montre que le sujet de la psychanalyse ne coïncide pas avec le sujet philosophique transparent à lui-même. Le sujet apparaît divisé par le langage, pris dans des positions qui ne peuvent pas toutes être occupées simultanément. Le groupe de Klein sert alors de schème pour distribuer ses positions et pour penser les transformations qui jalonnent une analyse. Ce recours aux mathématiques ne vise pas une démonstration scientifique au sens strict, mais une réduction des effets imaginaires qui entourent les concepts analytiques. Lacan cherche à donner une écriture minimale au rapport entre sujets, pensée, être et négation, afin de dégager la logique interne de la cure. Troisièmement, acte sexuel, nombre d'or et impossibilité du rapport sexuel, le séminaire développe une réflexion déterminante sur la sexualité, en particulier autour de actes sexuels. Lacan utilise le nombre d'or comme point de formalisation pour interroger ce qui peut ou non se constituer comme rapport entre les sexes. La thèse qui se dessine ne doit pas être comprise comme une négation empirique de la sexualité ou des relations amoureuses. Elle indique plutôt que la psychanalyse ne découvre pas une formule harmonieuse capable de faire correspondre deux sujets dans une complémentarité naturelle. Le désir, la jouissance et le langage introduisent une dissymétrie irréductible. La formule selon laquelle aucun acte sexuel ne parvient à fonder un rapport pleinement inscriptible annonce des développements ultérieurs très connus de Lacan sur le non-rapport. Sexuel. Dans ce cadre, la sexualité ne relève pas seulement du biologique ni de la relation interpersonnelle. Elle engage la structure symbolique du sujet et la façon dont la jouissance échappe à une mesure commune. Cette analyse rend la clinique attentive aux impasses logiques de l'amour, du désir et du corps. Quatrièmement, corps parlant, grand autre et valeur de jouissance, le livre renouvelle la place du corps dans la théorie lacanienne. Le grand autre, traditionnellement pensé comme lieu de la parole et du signifiant, se trouve rapproché du corps comme lieu primordial de l'écriture. Cette formulation modifie la compréhension du corps analytique. Il ne se limite pas à un organisme biologique ni à une image spéculaire. Il devient surface marquée par le langage, lieu où la parole laisse des effets de jouissance. Lacan introduit aussi une notion de valeur de jouissance inspirée par Marx, ce qui permet de penser la jouissance comme élément qui circule, se compte partiellement et résiste pourtant à une équivalence simple. Ce rapprochement avec Marx ne transforme pas la psychanalyse en économie politique, mais il donne un modèle pour analyser les investissements du sujet dans ses objets. Ses symptômes et ses pertes. Le corps parlant devient alors le point de jonction entre signifiant et satisfaction pulsionnelle. Cette perspective est importante pour saisir pourquoi une analyse ne traite pas seulement du sens, mais aussi de ce qui insiste dans le corps. En dernier lieu, fin de la cure, traversée du fantasme et rencontre du réel, la logique du fantasme intéresse directement la question de la fin d'analyse. Pour Lacan, une cure ne peut pas se réduire à une meilleure adaptation du moi, ni à une explication biographique plus complète. Elle implique une modification de la relation du sujet à son fantasme, donc à la formule qui soutient son désir et encadre sa réalité. Le fantasme protège le sujet d'une rencontre trop directe avec le réel, mais il limite aussi la possibilité d'un acte conforme à son désir. La fin d'analyse suppose donc que le sujet puisse reconnaître la fonction de ce montage et en éprouver les limites. Cette perspective éclaire la notion de traversée du fantasme sans la réduire à une disparition simple des scénarios imaginaires. Ce qui change est la place que le sujet occupe par rapport à objet petit a, au manque et au désir du grand autre. Le séminaire montre ainsi que la clinique lacanienne vise une transformation de position, plus qu'accumulation de savoir sur soi. En conclusion, ce livre concerne avant tout les lecteurs déjà familiers de la psychanalyse lacanienne, les analystes en formation, les cliniciens, les chercheurs en philosophie du sujet et les étudiants prêts à affronter une pensée dense. Il peut aussi intéresser ceux qui travaillent sur les rapports entre le langage, corps et désir, à condition de ne pas attendre un manuel introductif. Son bénéfice principal est intellectuel et clinique, il donne des instruments pour penser le fantasme comme structure logique. Pour situer la jouissance au-delà du sens et pour comprendre pourquoi la fin d'analyse engage une transformation de la position subjective. Comparé à des ouvrages plus pédagogiques sur Lacan, ce séminaire se distingue par son mouvement de recherche en acte, avec ses détours, ses formalismes et ses reprises. Comparé au texte freudien sur le fantasme, il introduit une formalisation plus radicale du sujet divisé, d'objet petit a et du réel. Sa difficulté est réelle. Mais elle fait partie de son intérêt, le lecteur ne reçoit pas une doctrine stabilisée, il suit une élaboration qui tente de donner une logique à ce qui, dans la vie psychique, para le plus intime et le plus résistant à la formulation. Si vous souhaitez soutenir Jacques Lacan, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!